Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Gaëlle Mac, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, à la une de Challenge, dossier spécial avec l'histoire, les grands escrocs. Comment ils ont exploité le capitalisme. Le dernier en date, c'est sans doute Bankman pour FTX dans les cryptos. Puis on parle aussi de Ponzi ou de Madoff. Gaël Sliman, président d'Odoxa, Philippe Trénard, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes. On revient juste, on est allé très 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 vite parce que la petite musique de fin de demi-heure tournait. Les rachats d'actions, volonté effectivement, probablement de taxer les rachats d'actions en 2025. Et vous dites que ça n'est pas une bonne idée.
Non.
Réexpliquer la raison pour laquelle. Parce que je vais vous dire, voilà. Perception, je ne sais pas si Gaël a déjà traité ça auprès de l'opinion, un rachat d'actions pour ou contre, les gens vont être contre. Ah oui, c'est une manière d'enrichir l'actionnaire sans lui donner du cash directement. Mais si on a de l'argent, c'est pour investir, ce n'est pas pour acheter ses propres actions. Et très probablement, la perception sera négative. Je ne sais pas si vous avez
Très probablement.
Voilà. Ce sera à peu près ce que je dis, je pense. Et vous nous dites, non, il ne faut pas tout s'amuser à ça.
Non, il ne faut pas
s'amuser.
Alors
dites-moi pourquoi.
D'abord, les rachats d'actions, c'est d'abord des rachats d'actions au bénéfice d'entreprises. Ce n'est pas au bénéfice d'individus immédiatement.
Oui, les montants maintenant sont quand même devenus énormes.
C'est quand même en majorité.
Oui, mais les montants sont devenus énormes, Philippe.
Oui, et les montants sont énormes. Mais d'un autre côté, si vous dites.
Au bénéfice quand même un peu des actionnaires, parce que ça fait une révolution.
Je n'ai pas dit que c'était à 100% pour les entreprises. Je dis que c'est largement pour les entreprises, pour plus de la moitié, quand on doit la comptabilité nationale. Le deuxième point, c'est que si vous piégez l'investisseur, ce qu'il aime bien, c'est pouvoir choisir. Et puis quand une entreprise va mal, il désinvestit pour aller vers le secteur qui va bien. Il faut que ça marche. Parce que si vous n'avez pas ce mouvement-là, eh ben, le secteur porteur, nouveau, qui vient concurrencer le vieux secteur, il ne peut pas se développer. Et donc, vous n'avez pas de productivité, vous avez impossibilité d'investissement,
Je ne vois pas trop le lien avec le rachat d'actions dans ce que vous expliquez.
Si, avec le rachat d'actions. Une des façons de sortir votre capital d'une entreprise, c'est le rachat d'actions. Parce qu'on vous paye, on vous rachète des actions, donc vous vous retrouvez avec de la liquidité. Et cette liquidité, éventuellement, le signal que donne l'entreprise, c'est il y a des montants, je n'ai pas d'investissement, n'est-ce pas, jusqu'à cette hauteur, allez l'investir ailleurs. Maintenant, si vous dites,
Philippe, là vous me le présentez comme si celui qui rachète ses propres actions faisait une espèce de don à la collectivité pour développer d'autres secteurs d'activité, parce que lui n'a pas utilité avec.
Voilà, mais c'est pour lui la garantie qu'il pourra avoir du capital quand il en aura besoin.
Oui,
parce que si je les piège dans une entreprise, mettons dans
le chez Total... Ils ne sont pas piégés, ils peuvent toujours vendre leurs actions.
Non, mais s'ils sont piégés, ils ne peuvent pas réallouer leur capital,
c'est
catastrophique. C'est comme si vous étiez piégé avec un salarié qui ne travaille pas. Ah ben, vous devez le payer tous les mois, vous devez... etc. Donc, si vous voulez que l'investisseur est rationnel, il ne va pas aller vers une entreprise où son capital reste d'être piégé et où la sortie va être difficile.
D'accord. Ça, c'est... Le mot piège, je sais pas, Miguel.
C'est piégé.
Ils peuvent vendre leurs actions.
Oui.
Licencier un salarié, c'est un processus compliqué et long, puisque vous faisiez une comparaison avec un salarié. Vendre une action, c'est du jour au lendemain. Donc, ils ne sont pas piégés. Ils peuvent toujours partir si ça leur plaît cette entreprise.
Mais à ce moment-là, pourquoi vous ne rachetez pas les actions? Quel est le problème que vous pose le rachat d'actions?
Dans le rachat d'actions,
c'est un transfert que vous faites. Il est taxé dans la plupart des pays de façon équivalente aux autres. Alors,
les Américains ont mis une toute petite taxe symbolique début 2023 sur les rachats d'actions, mais on n'est pas du tout sur des niveaux de taxation.
Non, c'est les États-Unis qui sont le plus à l'écart de l'équilibre. Ça a donné une flexibilité aux États-Unis qui est énorme dans la redistribution du capital.
J'entends ce que vous dites. Explication est un peu complexe, je ne le cache pas. On est à 1100 milliards de dollars de rachat d'actions dans le monde en 2023.
Mais la redistribution du capital est à ce niveau-là.
Je reviens plus globalement sur cette question du rachat d'actions versus que faire de cet argent. je suis un peu surprise, j'avoue, que des entreprises qui sont dans des mutations industrielles majeures, je pense à Total Energy ou je pense à Stellantis, qui sont quand même confrontées à une évolution de leur métier, et etc., disent tranquillement que finalement elles n'ont pas utilité de leur argent pour leurs investissements, enfin qu'elles investissent suffisamment et qu'elles n'ont pas besoin d'investir plus et qu'elles donc elles doivent rendre cet argent à leurs actionnaires. Il me semble qu'il y a quand même des défis majeurs, mais pas seulement d'investissement dans les chaînes de production, mais aussi dans la reconversion des employés, dans la formation. On a décidé de retarder l'âge de départ à la retraite. On a un sujet d'emploi des seniors, donc il faut les garder dans l'entreprise, ça coûte de l'argent, je veux dire, il faut, enfin en tout cas il faut réfléchir, et donc j'avoue que je suis un peu surprise de voir que certaines entreprises qui ne sont pas des sociétés de rente mais qui sont quand même des sociétés industrielles qui ont des défis à venir devant elles importants, nous disent qu'elles n'ont rien de mieux à faire finalement, qu'avec cet argent elles n'ont rien de mieux à faire qu'à le rendre aux actionnaires, parce qu'elles n'en ont pas l'utilité. Et je fais une petite remarque aussi un petit peu insidieuse. Je veux dire, il y a quand même un lien entre la performance boursière des titres et donc les rachats d'actions généralement dopent un petit peu le cours de bourse.
C'est sûr que ça dope le cours
et les rémunérations des dirigeants, qui sont généralement, dont les bonus sont calculés aussi en regard de la performance boursière. Donc je pense qu'il y a quand même, que c'est pas complètement désintéressé, et leur augmentation fulgurante, parce qu'ils ont quand même, ces rachats d'actions ont énormément augmenté sur la dernière décennie, on s'étonne que ça veuille dire que précédemment, on avait plus besoin de cet argent pour investir il y a 10 ans, et que maintenant on en a moins besoin. Voilà. Et d'ailleurs, je remarque que dans la communauté des chefs d'entreprise et dans la communauté du business, il n'y a pas que quelques députés insoumis qui ont quelque chose à dire sur le sujet.
Lionel m'écrit « Bravo madame, je suis d'accord à 100% avec vous sur les rachats d'actions ». Alors, j'ai rencontré, je ne donnerai aucun nom, mais il m'est arrivé quand même dans ma vie, quasiment 30 ans de journalisme économique, de côtoyer, de rencontrer des patrons de très grandes boîtes, des grands mandataires sociaux. Hors caméras et micros, ils sont nombreux à dire que à chaque fin d'année, préserver l'actionnaire dans ce qu'il a l'habitude d'avoir tous les ans, peu importe les résultats, c'est quand même une priorité. On fera tout pour que l'actionnaire soit bien traité, même si l'année a été bonne ou l'année n'a pas été bonne. Je parle de grands groupes.
Oui, essayer de stabiliser, effectivement, oui, d'avoir une évolution relativement stable.
Oui, mais quand vous êtes
alors,
côté
quel est
en bourse,
le risque pour l'actionnaire? Puisqu'on nous dit tout le temps que la rémunération de l'actionnaire récompense le risque. Mais si, en fait, bonne année ou mauvaise année, il faut toujours lui donner la même rémunération...
Vous n'avez pas d'investissement rentable, parce que des besoins d'investissement, il y en a d'énormes. La majorité d'entre eux sont non rentables. Mais des besoins d'investissement rentables, vous n'en avez pas autant que ça, et pas, c'est pas garanti toutes les années. Par exemple, racheter une belle filiale, c'est pas toutes les années que vous avez une belle filiale à racheter.
Certains m'avaient d'ailleurs dit si vraiment c'est la cata, je suis prêt à m'endetter pour garder le niveau de dividende habituel. Mmh. Ou là, franchement, Bon, Gaël,
oui,
Simon, regardez,
il y a un sujet. On a envie de donner une idée de stabilité, alors qui là peut être fictive ou réelle.
Juste un dernier truc, je me souviens, parce que c'est un sujet compliqué, les rachats d'actions. Moi, je trouve des arguments dans tout ce que vous dites. Christian Parizeau nous avait expliqué un jour très très bien ici les situations précises où le rachat d'actions est quasi obligatoire. Mais c'est des situations très particulières. J'ai accordé un paquet d'actions gratuites, je vais stériliser par un rachat d'actions. Mais on est sur des cas spéciaux. Gaël, Slimane...
Pour dire qu'effectivement, par rapport à votre question du départ, c'est assez indéfendable vis-à-vis de l'opinion publique. Et à l'inverse, l'idée de taxer les rachats d'actions l'est davantage. Mais si on veut enchaîner sur le baromètre économique...
Et on va enchaîner. Moi, je défends les dividendes, dans le principe global.
L'idée que expliquer à l'opinion publique que en fait, on va préserver l'intérêt de l'actionnaire, y compris dans des situations où la règle économique ne le prévoit pas, c'est-à-dire où les choses ne se seraient pas bien passées, pour le préserver en toutes circonstances, lui expliquer que ce n'est pas une manière, comme le disait Gaël il y a un instant... pour les dirigeants d'obtenir des primes ou des bonus de manière déguisée, c'est quelque chose qui passerait très mal aujourd'hui dans l'opinion, je pense. Donc, la taxation, elle s'explique, et ce gouvernement qui a une image de défense des riches, de président des riches, etc., a plutôt intérêt à essayer d'envoyer des signaux, là je parle du point de vue de l'opinion publique, qu'il n'est pas que cela.
Bon, on va reprendre cette discussion parce que c'est attaché à un sujet intéressant. Et très BFM Business, évidemment. Baromètre Doxa, JP, challenge BFM Business du mois de mai.
Ça fait le lien. Ça fait un petit peu le lien, puisque avec challenge, on a voulu, et à JP, on a voulu creuser le sujet de l'inflation perçue. On a, alors je sais pas si on a inventé ça ou réinventé ça, mais on teste depuis pas mal d'années maintenant ensemble, avec BFM, cette idée du sentiment d'inflation.
En tout cas, comment vous l'apercevez? Voilà.
Quel est le niveau auquel vous la situez sur les 12 derniers mois? Et à chaque fois, depuis toutes les années qu'on le fait, on enregistre des chiffres qui sont complètement, alors pas décorrélés, mais qui sont bien au-delà des niveaux relevés par l'INSEE. Quand on a commencé à le faire, qu'on avait une inflation quasiment inexistante, que l'INSEE l'a située à moins de 1%, on était sur une inflation perçue à entre 3-3,5%. Et puis on a vu 2,5%. Et puis on a vu l'inflation monter en réel dans les données statistiques de l'INSEE. Et dans la perception, on a atteint l'année dernière et l'année d'avant 18% d'inflation perçue.
Où on était à 5-6, un truc comme ça.
On était entre 5 et 6%. Donc vous pouviez multiplier en gros entre x3 et x4. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on teste là ce mois-ci la perception de l'inflation sur les 12 derniers mois, on est à 13%. On était à 2,5 en gros pour arrondir selon l'INSEE, 13% sur les. Mais comme on l'a déjà dit maintes fois, c'est pas forcément que les gens disent n'importe quoi, c'est que ça signifie que leur perception, c'est essentiellement une perception des prix des produits les plus courants et notamment des produits de grande consommation. Quand elle était située à 18%, l'inflation perçue, c'était à peu près les prix, l'évolution des prix dans l'alimentaire.
Ouais, on était à 14-15%.
On était à 14-15. Et donc, ça veut dire qu'il y a bien un sentiment de baisse de la hausse, parce que on le répète tout le temps, oui. Nicolas, mais refaisons-le une dernière fois.
Quand l'inflation baisse, ça veut dire que les prix augmentent.
Quand l'inflation diminue, quand on est plus qu'à 2,5 d'inflation, ça veut dire que les prix énormes, qui avaient énormément augmenté, continuent d'augmenter. Ce qui est absolument insupportable pour les gens.
Mais ça augmente moins vite.
Voilà. Donc, cette inflation, elle est à ce niveau-là. Mais surtout, ce qui est inquiétant, même si on la situe moins haut qu'autrefois, c'est que les gens dans l'enquête nous disent qu'ils se sentent très inquiets sur l'avenir, sur l'évolution de l'inflation. Alors que là, les signaux, a priori, qu'on reçoit sont plutôt des signaux rassurants. Les gens ne sont pas du tout rassurés. Et par exemple, quand on compare à ces deux dernières années, la part des très inquiets n'a jamais été aussi élevée. On est aujourd'hui à 41% de gens qui se disent très inquiets. On était entre 32 et 37% ces deux dernières années. Ça veut dire que le pessimisme, il est encore très présent et que ça aussi, ça a des conséquences sur les comportements économiques des acteurs. Et on a le sentiment, pour finir, que l'inflation en France... Et ce qui va en advenir dans les mois et les années à venir, eh bien, elle est plus dure, elle nous frappera plus durement que nos voisins européens, c'est ce que pensent les trois quarts des Français en gros, et que notre pays résistera moins bien à l'inflation et à ses conséquences. Il y a un déficit de confiance qui se traduit à tous les niveaux et qui explique aussi le regard que portent nos concitoyens sur le gouvernement et sur le président de la République aujourd'hui.
Ça vous inspire quoi, Gaël, Mac, Philippe Trénard? 13% d'inflation en ce moment, nous disent les gens en moyenne. Le dernier chiffre, c'est 2,2 en avril là, qui a été publié. Est-ce que ça va aller moins bien? Oui, ça va aller moins bien. Ils ne sont pas 100%, mais pas loin.
Non, mais en fait, l'inflation est juste un espèce de... C'est un baromètre de plus de l'inquiétude des Français et un peu de leur défiance. On voit quand même pour les économistes du bonheur qui existent et qui font des statistiques depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans sur des dizaines de pays en comparé et en posant toujours la même question. Et on s'aperçoit qu'à revenu égal, à situation économique et sociale égale, un Français est environ 20% plus pessimiste que la moyenne de tous les pays. Et plus pessimiste que, je ne sais pas, des Afghans, que des...
Que des
gens qui sont quand même dans une situation globalement d'incertitude et de pauvreté et quand même nettement plus sombre. Voilà.
Pardon, Gaël, mais c'est pas du bonheur. entrepreneur, c'est en fait qu'on est pessimiste.
Juste pour il y avait ce sujet du bonheur, mais il y avait aussi le pessimisme. Voilà.
C'est pas tout à fait pareil. C'est l'Afghan ou l'Irakien, dans cet exemple-là, c'est une étude que nous avons réalisée au niveau mondial, l'Afghan ou l'Irakien, ils se disent, je suis tellement au fond, sous les bombes, que ça peut pas aller plus mal. Le Français, lui, il a toujours cette illusion, ce sentiment d'un jardin d'Éden, que serait son pays et son modèle social, et que tout ça irait à volo. Donc c'est plutôt une projection sur l'avenir pessimiste.
Oui, oui. Bon, en tout cas, il y a ces deux notions, bonheur et optimisme, sont calculées sont demandées dans des sondages. Et en tout cas, on trouve ça. Et cette perception que cette espèce d'auto-dénigrement aussi, cette perception qu'on fait moins bien que les autres et qu'on décline et que c'était mieux avant, cette nostalgie très forte, elle est aussi assez spécifiquement française, parce que quand même la réalité est de dire que l'inflation en France pendant ces 2 ou 3 ans a été inférieure à celle de la zone euro.
Dieu sait si ça nous a coûté de l'argent au niveau des finances publiques.
Ça nous a coûté de l'argent et effectivement, comme vous le dites, Nicolas, c'est là que c'est important. C'est-à-dire que cette perception persistante qu'ont les Français oblige le gouvernement quand même parfois à ouvrir le chéquier pour essayer de contrebalancer cette perception, et ça participe de la dérive des dépenses publiques, parce que il en faut toujours plus pour faire comprendre aux Français que ce n'est pas si pire.
Et deux réactions. Niap m'écrit, les rachats d'actions, ça monte le cours de bourse et donc ça permet de faciliter des acquisitions par OPE, offre publique d'échange. Bon, et puis
sûrement.
Voilà, les rachats d'actions, faut pas oublier que les 10 millions de personnes qui ont un PER sont bien contentes. Voilà, de voir la valeur en mode.
Un petit point, l'Asie, peut-être Philippe Prénard, sur l'inflation, parce qu'il y a un petit point qui peut paraître inquiétant. Derrière, on se dit, au fond, ils sont pessimistes, de retard dans les anticipations, etc. Problème de pessimisme structurel. Mais il y a autre chose. C'est qu'une des conséquences, c'est que bien évidemment, si je suis banquier central, je vois ça, je dis que je me trouve donc face à des ménages qui ont dans leur tête des taux d'inflation beaucoup plus élevés et donc des exigences et des revendications à satisfaire beaucoup plus élevées.
En termes de salaire ?
Beaucoup plus élevées. Ça veut dire qu'on est là quand même au cœur d'une potentielle résilience de l'inflation dans nos pays. Car si vraiment les gens pensent cela, ils vont devoir le traduire quelque part un petit peu dans les revendications salariales.
Et c'est pas ce qu'on voit, Philippe. Les revendications salariales, on retombe sur des niveaux qui correspondent à peu près au niveau macro.
On n'est pas encore à des niveaux qui sont cohérents.
Ils le traduisent dans l'épargne.
Ils peuvent le traduire dans la revendication salariale, c'est-à-dire maintenir des revendications salariales, certes, qui, avec les taux d'inflation qu'on a eu dans le passé, engrangent des pertes de pouvoir d'achat, mais qui ne sont néanmoins incohérentes avec 2% d'objectifs d'inflation. Donc je pense que c'est quelque chose à suivre, au contraire. C'est très intéressant, parce qu'on pourrait avoir une des sources de résilience ici de l'inflation.
Oui, mais si je suis banquier central, si je ne vais pas...
Ils ont d'autres...
Quand je dis je suis data dépendante et je ne suis plus forward guidance, je m'appelle Madame Lagarde à la BCE, vous voyez que dans les data, je vais inclure également l'inflation telle que les gens la voient, l'inflation telle que...
Vous regardez toutes les enquêtes sur...
Il y a les anticipations.
Les anticipations d'inflation des consommateurs, vous l'avez dans l'enquête consommateur et vous les avez dans l'enquête auprès des entreprises. Ouais. Les banquiers centraux le regardent de très très près.
Au mieux, on est à 2,5%. On était au mieux à 2,5% d'inflation perçue en avril 2021, quand je crois de mémoire, elle était à 0,7 ou quelque chose comme ça. Donc, on peut tomber à des niveaux d'inflation perçus qui sont très faibles, même si c'est beaucoup plus que la réalité.
Il y a des facteurs structurels et probablement il y a un facteur d'amortissement entre la revendication salariale et ce qui est là. Je ne le connais pas. Il faudrait faire un travail empirique un peu solide pour pouvoir le tester.
En théorie, c'est en 2024 que les hausses de salaire devraient permettre, de retrouver à des niveaux de salaire.
Je vous rassure, le banquier central ne dit pas que les gens ont des anticipations d'inflation de 13%. Mais il voit bien là qu'il y a une résilience, qu'il y a quelque chose qui peut jouer et dont il doit tenir compte.
Bercy prépare un arsenal antifraude pour l'automne. Alors, on connaît les principales fraudes. La fraude fiscale numéro 1, c'est la fraude à la TVA. Il y a deux grosses fraudes sociales. La fraude aux cotisations, c'est l'argent qui ne rentre pas. Et la fraude aux prestations, c'est l'argent qui sort mais qui ne devrait pas sortir. Et puis là, eh bien, Thomas Cazenave, dans les colonnes des Échos, explique qu'on va ajouter de nouvelles cordes à notre arc d'arsenal anti-fraude pour aller chercher ceux qui grugent ma prime rénov, qui grugent le compte personnel de formation, qui vont percevoir des aides à l'apprentissage indues, ou encore des certificats d'économie d'énergie auxquels ils n'ont pas droit, que des aides publiques délivrées par des organismes qui n'ont absolument pas la culture de la fraude du fisc ou des douanes, parce qu'il s'agit de l'ANA pour la rénovation, ou encore le PNC2E, le pôle national des certificats d'économie d'énergie. C'est pas des flics anti-fraude, ces gens-là. Ça vous inspire quelque chose, pas la fraude, là?
Oui.
Alors, Gaël, pas trop long, parce que mais Gaël Mac, allez-y, oui.
Non, mais bon, en tout cas, il y a effectivement un très large éventail d'aides publiques, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que il y a certainement des filières même un peu de crimes organisés, qui savent vraiment viser ces aides particulières. Bon, mais après ça, c'est vrai que par rapport à ce qui était mentionné, des fois on a envie de se dire, mais est-ce que ce serait pas juste plus utile de mieux cibler ces aides, hein, voilà, pour, ou d'en supprimer certaines. Et en tout cas, ce sujet de la chasse à la fraude, je pense à ma prime rénov. Donc il dit que Tracfin a vu 400 millions d'euros de signalés
qui pourraient faire détecter 400 millions de fraude.
On se dit,
c'est énorme, hein,
2 à 3 milliards, voilà, c'est énorme. Mais en même temps, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ont déjà rempli des dossiers de MaPrimeRénov. C'est quand même un kafkaïen. C'est super compliqué. Il y a énormément de paperasse à remplir, etc. Ça prend beaucoup de délais pour recevoir les aides et compagnie. Si en plus, derrière, il y a un round de contrôle et qu'on risque d'avoir des trop-perçus et de devoir rendre l'argent, etc., je veux dire, cette prime va être définitivement inopérante. Donc,
De toute façon, voilà, elle est en train de...
Il y a quand même, il faut faire attention à ce que ça ne complexifie pas encore, alors que soi-disant on va vers la simplification, hein,
vœu pieux. Mais c'est le sujet de la complexité de ma prime rénov et la fraude. Je sais pas si c'est le même terrain,
mais si, parce que au bout d'un moment, si en plus de la complexité en amont, on a en aval les contrôles que voilà, on peut vous revenir vers vous en vous disant mais vous avez pas exactement bien rempli le bon, donc je pense qu'il faut quand même faire attention, et c'est vrai que pour certaines de ces aides, on se demande si simplement un meilleur calibrage ou les supprimer serait pas plus simple que d'aller chasser la fraude.
C'est ce qu'on est en train de se demander. Alors, l'apprentissage, c'est pas pour chasser la fraude, c'est pour que ça coûte moins cher, par exemple, qu'on est en train de rêver. Il y a une réflexion aussi pour savoir.
Non, mais il y a un effet d'aubaine. Alors, je ne sais pas si c'est de la fraude, mais il y a un effet d'aubaine clair.
L'effet d'aubaine, c'est pas de la fraude.
Oui.
L'effet d'aubaine, c'est pas de la
mais
fraude.
Mais je pense qu'il est pratiquement abusif parfois.
Allez-y, Philippe Trénard, bien sûr.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Gaël. Et je pense qu'à un moment donné, on aboutit à un tel coût pour la personne, un tel coût en bien-être pour la personne, pour l'administration, qu'au fond, ça. Abandonnons ces primes qui coûtent, et ne mettons pas des contrôles. Bien évidemment, vous sauvez.
Abandonnons ou cessons de contrôler, parce que
non, abandonnons, parce que
donc quand, ma prime rénov exit.
Quand vous avez un truc qui est pas soi, je pense qu'il faut abandonner l'idée, sinon ça coûte trop cher. Ce que vous donnez n'est absolument sans rapport avec le coût de la gestion. Alors, je pense qu'il y a un domaine où il faut être beaucoup plus prudent, c'est celui de l'alternance, de la formation professionnelle
en alternance,
de l'apprentissage. Parce que là, c'est un domaine important, très important. C'est un domaine où il y a de la fraude du côté des entreprises. Moi, je connais des acteurs au CNAM, j'avais des formations où j'avais des gens qui étaient tout simplement spécialisés à ne recruter que des alternants. C'est-à-dire, ils n'avaient que des alternants. Puis dès que l'alternant avait terminé, on le faisait partir.
Et c'est de la fraude ou de l'abus ?
Ah, c'est de l'abus. Ouais, c'est de l'abus, évident. Non, j'oserais pas juridiquement qualifier ça. Mais seulement, c'est que vous avez l'institution d'enseignants qui y contribue. Elle essaye de surfacturer les coûts de sa formation parce que personne ne regarde, bien évidemment, le sujet puisque c'est la princesse qui paye, n'est-ce pas ? Et donc, vous avez tout le monde dans le système est en train de faire prendre au dispositif. Et là, il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux, qu'on responsabilise aussi les organismes de formation, les universités, etc., pour qu'elles n'aillent pas mettre des alternants chez les spécialistes de l'embauche d'alternants exclusivement, et qu'elles aient pratique aussi la vérité des prix.
Je veux juste dire que je ne propose pas de supprimer ma prime rénov. Je pense que c'est quand même important. Il y a vraiment des millions de passoires énergétiques et il y a un gros travail à faire sur les logements. Mais en tout cas, c'est déjà, ce que je veux dire, c'est que c'est déjà une aide très très complexe, et rajouter des contrôles. Donc à un moment, il faut juste mieux les concevoir plutôt que de les contrôler a posteriori.
S'il y a vraiment 400 millions de vrais fraude sur un total de 2,5 milliards, c'est pareil là. Est-ce qu'on considère que tous ces gens qui utilisent le CPF pour passer le permis moto, c'est de la fraude ou de l'abus ou de l'effet de
l'abus.
Ouais,
en fait,
voilà,
c'est une forme d'abus.
Sanctionnable.
Alors sanctionnable, j'en sais rien, mais abus sûrement.
Gaël Sliman.
Oui, parce qu'il faut préciser lequel. On est à un niveau aujourd'hui de recherche d'argent pour boucher les trous sur la dette.
Je vous confirme.
Qui est telle que tout ce qui n'est pas efficace, il faut s'en occuper, c'est l'évidence. Donc tout ce qui n'est pas parfaitement efficace en termes d'incitation au bon comportement, je pense à ma prime Rénov par exemple, ça doit être chassé. Par ailleurs, du point de vue de l'opinion publique, c'est assez mécanique, ça fonctionne toujours. Expliquer que les autres en profitent, qu'il faut aller rechercher la chasse au gaspillage, la chasse aux profiteurs, c'est aussi quelque chose qui est efficace en termes d'opinion.
C'est payant.
C'est plutôt payant. Donc, je pense qu'on se dirige sur un maximum de messages politiques incitant à aller chercher les fraudeurs, que ce soit fait réellement ou pas. Mais de toute façon, ça, c'est utile de le faire.
Il y a un peu de com.
Et il y a de la com aussi.
Ouais, je rappelle que sur les grosses fraudes fiscales et sociales, on est arrivé à des montants recouvrés. Il faut regarder ce qui rentre vraiment, qui plafonne un peu. On plafonne dans les 10-11 milliards sur la fiscale et dans les 2 milliards sur la sociale tous les ans. Mais on a un problème pour recouvrer les sommes. Et ça, c'est un des éléments aussi nouveaux.
Plus vraiment de 15 travailler. 15 milliards pour la fraude fiscale.
Détecter, mais qu'on fait rentrer, c'est 10.
Alors après,
10,9.
Voilà, c'est ça. Bon. Il y a toujours. Et ça s'est amélioré déjà.
Oui.
Parce qu'avant, ça c'était la moitié.
Oui,
maintenant, c'est presque les deux tiers.
Et là où il y a un gros travail à faire, c'est sur la fraude sociale. Les URSSAF, en 2023, ont détecté 1,7 milliard de fraudes. Ils ont fait rentrer 80 millions. 1,2 milliard de fraude travail noir. Et ils ont fait vraiment rentrer 80 millions. Il y a une réaction de Christian. L'inflation perçue n'est pas la perception de l'inflation mesurée, mais la perception de l'évolution des dépenses contraintes, me dit-il. Bon, ça participe.
Pas faux du tout.
Le CPF est le salaire que l'on n'a pas. Bon, c'est Jonathan. On a 1 minute 15. Je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai entendu Bruno Le Maire dire ce matin. Monsieur Farandou ne m'a pas informé qu'il avait trouvé un accord pour éviter les grèves. Le fameux accord incroyable là, qui globalement annihile la réforme des retraites pour la plupart des cheminots, surtout les contrôleurs. Ça vous...
Oui, alors...
Vraiment, en un mot, Gaëlle, on a 55 secondes.
Oui, non, mais c'est vrai. Alors, Bruno Le Maire feint de se fâcher face à M. Farandou, mais c'est quand même...
Il dit qu'il va le convoquer.
Voilà, c'est quand même l'État qui a négocié l'accord avec les contrôleurs aériens, puisqu'ils sont fonctionnaires, voilà. Et cet accord est tout aussi généreux, au moins, que celui de la SNCF. Tellement bien, d'ailleurs, que le gouvernement ne voulait pas du tout en faire la publicité.
Oui. Tellement sympa qu'on n'a pas envie d'en
skier dedans. Et qu'il a fuité dans les échos contre son plein gré. Donc,
Et quand même, au moment où on demande des efforts à tout le monde, on fait des économies.
Avec une image des Jeux Olympiques qui est détestable, un sentiment qu'un certain nombre de catégories de population prennent, pour prendre une expression classique, prennent le reste de la population en otage à l'arrivée d'un événement comme les Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui est absolument insupportable.
J'ai pas réussi à trouver les mots pour.
Et c'est vrai que d'un côté, il y a des primes qui peuvent s'entendre, puisque des gens renoncent à leur congé,
qu'on leur demande une mobilisation
exceptionnelle, etc. Mais là, ce qui concerne la SNCF ou les contrôleurs aériens, c'est structurel. C'est des augmentations structurelles.
Et puis, c'est la réforme des
retraites. Oui, c'est pas temporaire, c'est pas un bonus.
Souvenez-vous, Sarkozy avait dit les régimes spéciaux, c'est fini. Voici les régimes très spéciaux. Là, c'est mieux. Allez, merci, on n'a plus le temps de continuer. Gaël Mac, les grands escrocs à la une de Challenge de cette semaine. Je l'ai imprimé en noir et blanc, mais enfin bon, voilà. Gaël Sliman, les économies, on fait des économies. Gaël Sliman pour le sondage Odoxa HDP et Philippe Trédard pour le cercle des économistes. Rendez-vous demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.